Vous savez pourquoi ça va être bon là? Parce que Dieu est présent. Et quand il est présent, ça peut être que bon. Amen. Donc regarde ton voisin et dis-lui, attends-toi. Regarde ton voisin ou ta voisine, n'aie pas peur. Dis-lui, attends-toi à être touché par sa bonté. C'est un Dieu bon. Est-ce que on peut se mettre debout tous ensemble à l'instant, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on lise ensemble un verset qui est capital, un verset qui est vital pour toi, pour moi. C'est un verset dans Philippiens 1. Et est-ce que vous pouvez juste répéter après moi, pour votre voisin, pour vous-même, dans votre cœur? Si on peut dire ensemble, je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Frères et sœurs, moi, je suis persuadé pour nous que celui qui a commencé cette œuvre bonne en nous la rendra parfaite. Un autre passage dit dans 2 Thessaloniciens 1:11, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance, c'est bon ça, tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. J'aime ce passage, c'était ma prière pour vous ce matin. En priant, je prie cette prière pour chacun d'entre vous, cette prière où Paul dit qu'il prie continuellement afin que Dieu nous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en nous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté. C'est juste extraordinaire. Et j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, en Christ, le succès, ce n'est pas ce que nous accomplissons, c'est ce que nous devenons. Le succès en Christ, ce n'est pas ce que tu accomplis, c'est ce que tu deviens. C'est pas pareil. Et dans cette façon de mesurer le succès que Dieu a, c'est de voir comment nous ressemblons plus, chacun d'entre nous, à Christ chaque jour. Comment il habite en nous, comment on le porte, comment on porte sa présence. Surtout dans les circonstances difficiles. Est-ce qu'on porte plus les circonstances ou est-ce qu'on porte plus en nous sa présence? Le thème que j'ai à partager avec vous ce matin s'intitule « Trouve Christ en toi dans la tempête ». Trouve Christ en toi dans la tempête. Alors si personne n'a jamais vécu de tempête, ce message n'est peut-être pas pour toi. Mais si tu as vécu au moins une tempête dans ta vie, alors je pense que Dieu va te parler au travers de sa parole. Nous connaissons tous aussi cette histoire dans Marc 4, où Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord, de l'autre côté du lac, où il laisse la foule, ils s'en vont, il prend la barque, et là il y a un vent violent qui arrive, les vagues qui se jettent contre la barque, l'eau qui commence à remplir la barque, et Jésus, lui, en arrière, dort, la tête sur un oreiller, tranquille. Les disciples le réveillent, ils crient, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla et parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore. » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que le vent et le lac lui obéissent ?» Et il a fallu une tempête pour que les disciples découvrent Christ dans une autre mesure. Ils marchaient déjà avec lui. Ils étaient déjà en train de le suivre depuis quelques mois. Ils pensaient le connaître. Et là, il y a une tempête qui arrive sur le lac. Les vagues qui touchent la barque, l'eau qui rentre dans la barque. Ils commencent à s'affoler. Et Jésus, lui, dort. Et là, il réveille Jésus en disant, « Est-ce que tu ne te soucies pas de nous ?» Oh, combien d'entre nous a dû faire cette prière ? Dans les difficultés de la vie, on vient à l'église, on sert Dieu, et les problèmes arrivent, et on pense, « Oh Jésus, est-ce que tu te soucies vraiment de nous ?» Et là, dans la barque, Jésus se réveille, et il calme la tempête, il calme la mer, le lac, et les disciples s'exclament en disant, mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Et vous savez, dans les tempêtes de la vie, nous avons tous l'opportunité de découvrir Jésus dans une autre mesure. Parce qu'il est celui qui calme la tempête. Et je crois et je sais que c'est ce qu'il veut faire ce matin. Il veut que plusieurs ici dans ce lieu puissent découvrir Christ dans une autre mesure et dire « Mais qui est ce Jésus que je suis qui me fait autant de bien dans la tempête, qui calme la tempête en moi et me donne sa paix ?» C'est ce que Dieu veut et qui enlève nos peurs. Et ce Jésus-là, il est en toi. Il est en toi si tu appartiens à Jésus-Christ. Il est en toi. Et il nous faut trouver ce Christ en toi qui est capable de calmer la tempête. 2 Corinthiens 13, verset 5, nous dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et continue en disant, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Aïe. Paul dit, oh, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il continue en disant, ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Et il continue en disant, à moins que vous ne soyez disqualifiés. Il est en train de dire qu'on n'arrive pas à reconnaître que Christ est en nous, alors on se disqualifie nous-mêmes de la paix qu'il veut nous donner, de l'espérance qu'il veut nous donner, de la force qu'il veut nous donner, de la sagesse qu'il veut nous donner, parce qu'on ne reconnaît pas qu'il vit en nous. Or, je crois que celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous la rendra parfaite. Mais ma question c'est, reconnais-tu que Jésus, le Christ, vit en toi? Et ici, le mot reconnaître est extrêmement puissant. Le mot reconnaître, c'est le mot grec epigenisko. Écoutez bien ce que ça signifie. Ça parle de devenir complètement intime. Ça parle de s'accoutumer à discerner. Ça parle de s'habituer à percevoir. Ça parle de savoir trouver par habitude. C'est bon ça. Ça parle de reconnaître par la pratique d'un mécanisme usuel, intentionnel, qui nous amène à trouver, même sans réflexion. Alors là, le mot ici, reconnaissez-vous, parle de devenir complètement intime, parle en réalité de s'accoutumer à discerner. C'est-à-dire, dans la tempête, dans les épreuves de la vie, chaque jour, être habitué à reconnaître que Jésus est en toi. Être habitué à discerner, prendre l'habitude de manière intentionnelle par la pratique pour savoir trouver, pour percevoir où il est en toi. En toi. Où est la paix en toi? Dans Colossiens 1, la Bible dit au verset 27, « En effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et hier, je disais aux étudiants, il y a de la gloire en toi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons et avertissant en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec ma force qui agit puissamment, avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, c'est lui qu'on annonce avec sa force, avec sa sagesse qui travaille en nous. Jésus travaille en toi par le Saint-Esprit. Et il veut que tu apprennes à reconnaître ce travail en toi. Il veut que tu apprennes à discerner qu'il vit en toi. Et que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Et c'était un mystère qui était caché pendant des millénaires et des siècles. Et ce qui n'est pas évident avec un mystère, c'est que justement un mystère n'est pas évident à comprendre. C'est mystérieux. Et ce mystère a été révélé. Paul dit, mais ce mystère, Christ en nous, l'espérance de la gloire, a été révélé. Et il encourage ici les Corinthiens et les Éphésiens à dire, hey, n'oubliez pas, il vit en toi. Christ vit en toi. Christ en nous. C'est bien sûr une question de son royaume en nous. C'est une question de cœur. Question de lui à l'intérieur de notre cœur. Et sa gloire est en toi, pour libérer sa force en toi, pour libérer sa paix en toi. Et ça, c'est bon. Vous savez, la Bible dit, vous connaissez ce passage quand Jésus dit à une des précieuses sœurs, Marthe ou Marie, je sais plus laquelle, mais il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu verras. Tout simplement. Si je te dis Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu fais Amen, c'est bien. Hein? C'est bien ce qu'il dit. Mais tu crois pas vraiment. Ben, tu verras pas vraiment. Parce que si tu crois, tu verras. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu verras. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai quelle force agit en toi. Tes convictions des yeux. Il y a une force qui agit en toi en fonction de ce que tu crois. Je veux t'encourager à ce que ce soit le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 2, 13 nous dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Dis-moi ce que tu crois et je te dirai ce que tu verras. Reconnaissez-vous pas que Christ vit en vous, dit Paul? Et moi, je vous propose que personne ici ne soit disqualifié. Et qu'on puisse comprendre qu'il est le mystère qui va faire naître l'espérance d'un triomphe glorieux en toi, quelle que soit la tempête. Et pour ça, il nous faut prendre du temps, vous savez, pour voir les empreintes de Dieu, pour voir dans les circonstances, dans l'histoire de ta vie, en toi, au travers de toi, dans ton cœur, comment il agit. Ma question, c'est comment reconnaître Christ en toi mieux? Comment reconnaître Christ en toi de manière plus habile? Pour que ce mot reconnaître on puisse devenir de plus en plus habitué à discerner par la pratique. Ça devient, le mot signifie que ça devient instinctif après. Vous savez, moi j'ai fait un peu de sport de combat à l'époque et c'est un peu comme Karate Kid. Lustré, frotté. Vous connaissez pas Karate Kid? Alors Karate Kid, au départ, il devait nettoyer les voitures, faire le ménage, il devait lustrer et il devait frotter. Et en fin de compte, c'était une technique de combat, mais il ne savait pas. Et quand son adversaire est arrivé, son maître lui dit « Lustre et frotte maintenant !» Et il s'est rendu compte, à force de nettoyer, lustrer et frotter, que dans le combat, c'était devenu instinctif de savoir parer les coups, parce qu'il n'avait même plus à réfléchir tellement il était habitué à lustrer et frotter. C'est-à-dire, c'est devenu facile à, ça passe même plus par la réflexion, c'est tout de suite, paf, automatique. C'est comme, qui a son permis ici? Vous devez bien comprendre. Quand tu es à l'auto-école, et qu'au départ, faut que tu appuies sur l'embrayage, tu passes le rapport, tu commences à accélérer, tu lâches tout doucement, et là, il faut que tu te concentres, oui ou non? Il y a tout un processus de concentration. Là, tu n'es pas en train de regarder à côté. Quand on te parle, tu es concentré. Mais au bout de quelques années de pratique, tu ne penses plus. C'est automatique. Tu parles, tu regardes. Des fois, tu t'arrêtes, tu discutes. Franchement, tu téléphones. Et tu y vas, quoi. Première, seconde, tranquille. Ça devient automatique. Parce que par la pratique, c'est devenu instinctif. Le mot reconnaître parle de ça. Comment arriver par la pratique à discerner de manière automatique celui qui vit en toi? C'est juste bon. Et c'est un travail de tous les jours. Parce que la réponse à cette question est vitale et cruciale si tu veux avoir une vie de victoire en Jésus-Christ. Une vie de succès. Mais le succès ne dépend pas et ne se mesure pas en Christ par ce que nous accomplissons, mais par ce que nous devenons en priorité. Et c'est ce que Dieu veut. Ça devienne instinctif. Et tous les jours, donc, il faut dire, wow, Paul dit, mais ne reconnaissez-vous pas que Christ vit en vous. Et comprenons bien ceci. Christ en toi te dote de tout ce qu'il faut pour que tu réussisses et traverses n'importe quelle difficulté. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu crois? Christ en toi contient tous les ingrédients pour que tu puisses amener les changements à propos dans ta vie. Il contient tous les ingrédients. Pas une seule fois, j'ai vu Jésus dans les Écritures, face à l'adversité, une tempête, un problème, dire « Ah, ben là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. » Pas une seule fois dans les Écritures, Jésus fait ben, « Alors là, les gars, je sais pas quoi. Y a deux poissons, suite. Le carrefour le plus proche, il est où ?» Pas une seule fois face à un problème, Jésus ne sait pas quoi faire. Et ce Jésus-là vit en toi. Il n'est pas très loin. Il est en toi. Et il veut que tu apprennes à le reconnaître. C'est son cœur. Lorsque nous traversons donc des situations difficiles, les tempêtes, nous devons apprendre à le chercher de manière intentionnelle pour libérer sa paix, libérer son espérance, sa joie, sa force. Plus tu connais Christ et plus tu te connais. Ça me fait penser à Moïse. Lorsque Moïse arrive dans Exode 3, il voit le buisson ardent et dans Exode 3, verset 11, Dieu l'envoie, il dit au verset 11, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Attends, mais qui on est pour faire la nation un disciple? Qui on est pour aller conquérir la ville de Montpellier? Moïse est en train de dire, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les enfants d'Égypte? Et j'aime la réponse de Dieu, parce que Dieu lui dit, je serai avec toi. Et Moïse continue et il dit, mais attends, mais si les enfants d'Israël me demandent qui m'envoie? Et Dieu lui répond, tu leur diras, c'est celui qui s'appelle Je suis qui m'a envoyé vers vous. Et là, c'est très intéressant. Moïse dit, je ne sais pas qui je suis. Et Dieu dit, moi je suis. Moïse vient vers Dieu et lui dit, tu m'envoies vers Pharaon, mais qui suis-je? Et il dit d'ailleurs, qui est-ce qui m'envoie? Dieu dit, je suis. D'accord, moi je ne sais pas qui je suis, mais toi tu connais vraiment qui tu es. Et quand toi tu dis comme Moïse, mais qui suis-je? Mais tu rencontres, quand le qui suis-je rencontre je suis, alors le qui suis-je connaît qui je suis. Et qui il est. Parce que plus tu le connais, plus tu te connais. On a chanté un magnifique chant tout à l'heure, je suis à toi. Le problème, c'est pas uniquement de savoir qui il est et qui tu es, mais surtout à qui tu es, ou si tu préfères, à qui tu appartiens. Et de comprendre ça. Et donc Moïse a un problème d'identité, il dit, mais qui je suis? Et Dieu lui a pas de problème d'identité, il dit, je suis. Et je suis vit en toi. Il désire que tu comprennes cela. Il est la paix. Tu as besoin de la paix? Il est la paix. Il est notre paix. Cette paix qui calme la tempête, la paix de Dieu crée une tempête dans le camp ennemi. Tu as besoin de l'espoir? Il est l'espoir. Tu as besoin de guérison? Il est celui qui guérit. Tu as besoin de restauration? Il est celui qui restaure. Tu penses que la situation est morte? Il est la résurrection et la vie. Et il est en toi. Mais comment j'aimerais partager surtout deux points. Il y en a plusieurs, mais que deux ce matin. Comment arriver à plus expérimenter et mieux trouver Christ en nous? Comment faire? Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous devons apprendre à demeurer dans sa parole. Nous devons apprendre à demeurer dans sa parole. Jean 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Et un verset, un passage connu, mais j'aimerais bien mettre l'emphase quand même là-dessus. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui croient en Jésus dans ce lieu? Levez bien haut la main. Amen. Ce message s'adresse à vous. Et ceux qui ne croient pas encore, à la fin, vous allez croire. Vous allez croire parce qu'il vous aime. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jésus dit, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. À qui Jésus s'adressait-il? À ceux qui crurent en lui. Et il dit à ceux qui croient en lui, ma parole ne pénètre pas en vous. Ah! Il y a beaucoup qui croient en lui ici. Quasiment tous levé la main. Faisons attention. Jésus dit à ceux qui crurent en lui, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. C'est comme s'il disait, je sais que vous êtes chrétien. Mais ma parole ne pénètre pas en vous. Et là, il faut qu'on creuse. Parce que pour le trouver en nous, il faut que sa parole pénètre en nous. Et il explique le process. Il donne le processus avant de faire cette conclusion. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Souvent, on prend que cette phrase. Et on dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si tu demeures dans sa parole. Si tu demeures dans sa parole, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais ça parle d'abord de demeurer pour expérimenter cette liberté. Où commence la liberté? De notre façon de penser. La liberté commence dans ta façon de penser. Comment tu penses ta vie? C'est ça qui t'emprisonne ou te rend libre. Donc d'abord, tu commences à penser autrement et tu commences à expérimenter la liberté, à voir d'une façon nouvelle. Et hier, j'expliquais un témoignage qui m'est arrivé dans mon travail, je le partageais, c'est à propos aussi pour ce matin. J'expliquais aux étudiants que avant de me convertir, je travaillais à la mairie de Saint-Pierre, une commune dans le sud de l'île. Et je m'occupais de pas mal de missions. Je travaillais en contrat de ville pour ceux qui connaissent. Et il y avait donc un projet d'insertion pour refaire une clôture d'une école primaire avec un artiste. Et quand j'ai pris tous les dossiers, je visite un peu les dossiers, je regarde les projets. Et je suis parti voir le projet de cet artiste au niveau de la clôture de l'école. Et quand j'arrive, je vois des pneus rouges, blancs. On dirait que c'était un truc rasta, quoi. Et c'était sympa, mais je me dis, à quoi ça sert cette pile de pneus-là, décorée comme ça, avec des trucs de fer sur la clôture tout le long. Bref, je commence à regarder ça et je juge dans mon cœur, je dis, c'est vraiment vilain. Je dis, ce que a fait cet artiste-là, c'est vraiment pas joli, quoi. Et j'organise une réunion avec l'artiste pour voir par rapport au projet, puisqu'on finançait, et qu'est-ce qu'il en était. Et là, l'artiste commence à me parler de son œuvre, avec passion. Il me donne la signification. Et à la rencontre de l'artiste, je commence à changer ma perception de son œuvre. Je commence à être libéré du jugement erroné que j'avais pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire au travers de cette œuvre d'art. Je dis, ok, je comprends mieux. Et le problème que j'ai pas dit hier, la suite, c'est que je n'ai pas demeuré dans la façon de penser de manière artistique. Au bout de quelques temps, avec le temps, l'usure, je regardais l'œuvre. Au départ, je commençais à comprendre. Je dis, ah ouais, je comprends. Mais au bout de quelques semaines, je dis, mais c'est toujours aussi vilain quand même. Je me dis, je comprends pas. J'ai dit, je vois ce qu'il veut dire, mais je comprends pas. Si j'avais, par exemple, acheté un magazine sur l'art, si j'avais fait plusieurs réunions avec lui, si j'étais sûrement parti voir comment ça, ses œuvres qu'il avait faites, si j'étais plus informé, j'aurais grandi dans ma compréhension de l'art, ou surtout de son art, et peut-être que ce que j'avais commencé à percevoir aurait resté. J'ai compris quand même ce qu'il faisait, donc mon interprétation était sans jugement par la suite, mais mes goûts, si vous préférez, n'avaient pas changé. Parce que je ne suis pas demeuré. Et Jésus s'adresse à ceux qui croient en lui et il dit, mais ma parole ne pénètre pas en vous. Parce qu'il dit, si vous demeurez, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mot demeurer, c'est le mot grec meno, pas nemo. Meno. Ça parle de référence à un lieu. Ça parle de s'attarder, de séjourner, de retenir, de garder continuellement. Et ça fait référence au temps. Ça parle de garder une façon de voir, un principe vrai pendant le temps. De faire une place dans ta pensée, de cultiver, de préserver cette façon de penser pendant le temps. Et là, je me suis dit, quand j'ai étudié ce mot, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi le temps ? Pourquoi il faut demeurer dans le temps ? Vous savez pourquoi ? Parce que le temps va voir si ce qu'on a cru est superficiel ou réel. Le temps va mettre en évidence, va démasquer si c'était juste de la bouche qu'on confessait ou si c'était du cœur qu'on croyait. Le temps, avec les circonstances qui vont opposer la parole qui a été déclarée, vont venir dévoiler si vraiment on a cru du cœur et on a demeuré, ou on a juste dit, ouais, c'est bien un bon message, hein, une bonne sensation. Ça m'a fait du bien. C'est pas pour te faire du bien uniquement. C'est pour te transformer. Pour que tu arrives à reconnaître Christ en toi. Et tu sois renouvelé en la même image. Et que tu demeures afin de connaître la vérité. Et d'être libre. On a beau, par exemple, prêcher sur « il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ ». Mais combien se sentent condamnés eux-mêmes ? Parce qu'ils ne demeurent pas. Et Jésus s'adresse à ceux qui croient. Et il dit « mais ma parole ne pénètre pas ». La parole pénètre pas. À ceux qui croient. Pourquoi ? Parce qu'ils ne demeurent pas. Parce que dans le mot « demeure », il y a le facteur « temps ». Et le facteur temps va venir éprouver. Dans le temps, la vérité va être éprouvée. Dans le temps, il y aura des frustrations, des incompréhensions. Le temps va venir révéler nos vraies motivations et nos vraies intentions derrière nos actions. Ça va être mis en lumière. Dans le temps. C'est pour ça que Jésus dit, demeurez si vous demeurez. Il y a une condition. Ça dépend pas de lui. Ça dépend de toi. Il veut que tu expérimentes la vérité. Il veut que tu expérimentes la liberté. Il veut que ça devienne automatique, que tu trouves Christ en toi. Tu trouves l'espoir. Tu trouves la joie. Tu trouves la paix. Tu trouves la guérison. Tu trouves la restauration. Tu sois guéri dans ton cœur. Mais ça dépend de toi. Et il dit à ceux qui croient en lui, mais ma parole ne pénètre pas. Parce qu'on ne demeure pas. Et il dit, si vous demeurez dans le temps, tu tiens, alors la parole va pénétrer. Le mot pénétrer, c'est le mot grec choreo, qui signifie faire de l'espace, contenir quelque chose dans le temps pour permettre le lancement d'un processus qui va de l'avant. Ça signifie ça, pénétrer, c'est de faire de l'espace pour permettre à ce qu'un processus aille de l'avant. Pénètre et s'enracine bien dans ton cœur. Par exemple, quand Jésus dit dans Matthieu 15, 17, vous ne comprenez pas, c'est tout ce qui rentre, ce n'est pas tout ce qui rentre dans la bouche qui va dans le ventre. Le mot va dans le ventre, qui parle de ce processus de digestion, c'est le mot choreo. Ça parle d'un process qui est digéré, qui pénètre et qui transforme la nourriture en énergie. Et Jésus veut transformer sa parole en énergie spirituelle. Mais pour ça, il faut demeurer afin que le processus de la parole pénètre. Elle pénètre dans ton cœur, elle va de l'avant, elle progresse. Il n'y a pas de vérité micro-ondes. Oublie. C'est un processus. C'est la vérité qui produit une liberté qui va de l'avant, une liberté qui va en profondeur. On a vu tout à l'heure, la liberté commence où ? Dans notre façon de penser. Mais elle doit se terminer où ? Dans ton comportement. Mais avant d'arriver à ton comportement, ta manière de te conduire, il faut demeurer. Et quand tu demeures, tu laisses le processus arriver jusqu'à ton cœur et qui change ta vie, qui te change, qui te transforme. Ta façon de penser produit un autre comportement. Et après, les gens qui te côtoyaient auparavant voient que tu as totalement changé et te disent « Mais waouh, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu n'étais pas aussi joyeux auparavant, tu es toujours grincheux, à chaque fois quelqu'un faisait une queue de poisson, tu te donnais un coup de pare-choc. Et c'est incroyable, à chaque fois quelqu'un sur la route t'insultait, tu faisais un chapelet de jurons. Et tu dis, et maintenant c'est incroyable, la vérité t'a libéré. Et aujourd'hui, tu es différent. Parce que la vérité, tu l'as laissé pénétrer. Et c'est le cœur de Dieu. Dans Jean 15, le chapitre de Jean 15 est formidable. On va pas tout lire, mais Jésus dit souvent, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un demeure en moi, alors je demeure en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Demeurez dans mon amour. C'est le même mot. C'est toujours le même mot. C'est toujours le même mot. Celui qui demeure dans mon amour. Celui qui demeure dans ma parole. Celui qui demeure, lorsqu'il demande quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il a laissé un processus aller de l'avant. Il a laissé la vérité prendre en maturité dans sa vie. Et il a commencé à penser autrement, et maintenant, il vit autrement. Et ça se voit dans son comportement, dans ses actions. Et Jésus continue dans ce passage, et il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » C'est le même mot. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Et regardez ce qu'il dit. Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Waouh, le mot « méno », demeurer, faire de l'espace dans le temps. Ça parle, si on fait ça, on laisse la parole pénétrer et cette parole va produire une liberté. Elle te libère de la condamnation, elle te libère de l'offense, elle te libère de la trahison, elle te libère de l'incrédulité, elle te libère de la dépression, elle te libère de l'oppression, elle te libère du mécontentement, elle te libère de la convoitise, elle te libère de ce qui t'oppresse, elle te libère. Et non seulement qu'elle te libère, elle produit la paix, mais cette maturité de la liberté va produire la joie. C'est ce que Jésus dit au verset 11. Il dit, si vous demeurez, alors vous allez, j'ai mis ma joie en vous et cette joie-là va être parfaite. Quand la liberté devient mature, elle produit de la joie. Pas à cause des circonstances. Parce que tu as laissé la vérité être vivante en toi et te vivifier. C'est par le Saint-Esprit, une liberté qui produit la joie. C'est tout un process. Qui ici dit, me dit Steve, moi je veux vraiment expérimenter une joie profonde et parfaite. Amen. C'est vraiment ce que Dieu a pour nous. Vous savez que la joie fait partie de l'héritage et des récompenses que Dieu a pour nous. Il dit, viens et rentre dans la joie de ton maître. Mais moi je vous propose, allons expérimenter plus de joie aujourd'hui déjà. Il n'y a pas besoin de regarder uniquement Gad Elmaleh pour être joyeux. Bref, c'est un processus. Un exemple. Lorsque le peuple de Dieu a quitté l'Égypte et qu'il a été libéré de l'esclavage, donc le processus de liberté avait commencé. Mais il n'était pas complètement libre. Ils étaient en dehors de l'Égypte. Le problème, c'est que Pharaon et son armée les suivaient. J'imagine le peuple se dire, ouh là là, on n'est plus en Égypte, mais on n'a pas la capacité d'affronter Pharaon. On n'a pas la capacité de réellement faire la différence. Pharaon peut traverser la mer et nous poursuivre jusqu'à nous détruire totalement. Oui ou non? Et ils ont dû, à un moment donné, même en traversant la mer, en se disant, purée, ils sont toujours derrière nous. Si les gars passent de l'autre côté, on est fini, quoi. Et s'ils seraient arrivés de l'autre côté et que Pharaon serait arrivé sur la berge, il serait dit dans leur tête, il va prendre les bateaux, il est plus riche que nous déjà, il va nous poursuivre, on est cuit. Donc, ils étaient peut-être délivrés de l'Égypte, mais ils n'étaient pas délivrés de la peur de l'Égypte. Mais en marchant et en traversant la mer Rouge et en voyant Pharaon être englouti dans la mer et mourir, alors là, ils ont dû être libérés. Ils ont dû se dire, oh, ce petit Pharaon-là, oh, il est petit, ce Pharaon, une fois qu'il a coulé, qu'il est mort. Ils ont dû se dire, oh, ce petit Pharaon, maintenant, c'est bon, quoi. C'est bon, on n'a plus peur. Et je crois que ce matin, Dieu veut engloutir plusieurs pharaons dans vos vies. Plusieurs pharaons qui créent des peurs et qui vous empêchent d'être libres. Parce qu'il nous faut demeurer dans la parole pour qu'une fois libérés de l'Égypte, on est libérés des peurs qui peuvent provenir à nouveau de l'Égypte. Et c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut que tu trouves Christ en toi, en demeurant dans sa parole. Alors la vérité va produire cette liberté en profondeur. Non seulement elle te sort de l'Égypte, mais elle engloutit Pharaon. Jésus dit à ceux qui croient en lui, il faut que la parole pénètre en vous. C'est sa parole. Et cette parole-là, quand elle devient mature, elle produit la joie. Vous savez quelle est l'épître la plus joyeuse de la parole de Dieu ? C'est Philippiens. Paul l'a écrite en prison. Après avoir appris comme nouvelle qu'il allait mourir martyr. C'est sympa, non? Il apprend qu'il va mourir martyr. Il est en prison et il écrit l'épître la plus joyeuse. Et il n'arrête pas de dire, mais réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et dans Philippiens 2, 17, par exemple, il dit, même si je dois m'offrir comme un sacrifice pour vous à Dieu, pour le service de votre foi, je m'en réjouis, le gars. Et je me réjouis encore avec vous. Vous aussi, de la même manière. Réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous avec moi. Ah, tu dis, le gars a fumé, non? Tu te dis, mais attends, il est en prison. Il dit, je vais m'offrir en sacrifice pour vous. Et il te dit, mais faites la fête. Je vais mourir. Au passage, Dieu a fait de la mort une bonne nouvelle. Et il dit, je vais mourir. Et réjouissez-vous. Est-ce que vous pensez qu'il était libre? Bien libre. Totalement libre. Totalement libre. Les circonstances n'ont pas changé, mais lui, il est libre. Le pharaon englouti. Parce qu'il a demeuré dans la parole. Le prophète Jérémie dit dans Jérémie 15, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, ô éternel Dieu des armées. Notre version dit, tes paroles se sont présentées à moi, je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse et ma joie. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, éternel le Dieu de l'univers. Wow. Jérémie dit, tu vois, quand j'ai reçu ta parole là, je l'ai bouffée. Traduit dans un langage plus commun aujourd'hui. J'ai dévoré ta parole. Et en la dévorant, qu'est-ce qui s'est produit? Quand la parole est partie, quand elle a pénétré, quand je laissais cette parole qui est la vérité devenir mature dans la vérité, elle a produit de l'allégresse. Elle a produit la joie. Elle m'a libéré de mes circonstances. Elle m'a libéré de mon passé. Oh, j'ai fait des erreurs, oui! Mais je me laisse plus les erreurs me définir. On m'a critiqué, peut-être! Mais je vais plus laisser comment les autres me voient me définir. Je laisse sa vérité me définir. Et sa vérité me libère. Elle me libère des critiques. Elle me libère des jugements. Elle me libère de comment les autres me voient. Elle me libère de mon passé auparavant. Et cette vérité produit en moi une joie. Elle produit en moi une identité. Parce que quand je connais celui qui est, alors je suis moi aussi. Parce que je suis vit en moi. Et si je ne connaissais pas qui je suis, quand je suis vit en moi, maintenant je connais. Et c'est le cœur de Dieu. Parce que la parole a pénétré. Et quand la parole a pénétré, oh, elle produit la joie. En dépit des circonstances, elle produit la paix. Et dernier point. On a vu le premier, c'est apprendre à demeurer dans la parole. Le deuxième, c'est prendre la responsabilité d'utiliser ta liberté pour aimer les autres. Prends la responsabilité d'utiliser ta liberté pour aimer les autres. Quelqu'un dit, le prix pour briller s'appelle la responsabilité. Sois responsable de gérer ton propre cœur. Sois responsable de demeurer dans sa parole. Cherche Christ. Il vit en toi, la parole est en toi. Écoutez bien ceci. C'est mon avis. Si l'évangile que nous prêchons ne nous amène pas à aimer et à servir la société qui nous entoure de plus en plus afin d'amener son règne, alors nous devons nous poser la question de l'efficacité de notre théologie. Si l'évangile ne nous amène pas à aimer et servir, à aimer pour servir, pour les autres, être responsable, en disant non, je veux que sa parole pénètre en moi, je veux être libre, je veux qu'il fasse la différence. Sois responsable d'utiliser ta liberté pour aimer les autres. Ma question c'est, est-ce que Dieu, en te regardant, en regardant comment tu gères ta responsabilité, peut te confier plus? Je vais vous lire une histoire avant qu'on aille dans la prière. J'ai une histoire qui m'a vraiment touché. D'une femme portoricaine aux États-Unis, à New York. Et vous allez voir ce qu'elle a fait énorme. Je me dis, mais avec tous ceux et celles que nous sommes ici, nombreux, nombreuses, avec Christ en nous, qu'on doit apprendre à reconnaître, à discerner par automatisme s'il est ma paix. Et quand tu tapes dans sa paix, tu es libéré de la condamnation. Tu es libéré du non-pardon. Certains, vous devez apprendre à vous pardonner. Ici, dans ce lieu. Écoutez ce que cette femme dit, son histoire. Bill Wilson. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un homme de Dieu aux États-Unis. Développe des écoles du dimanche dans certaines régions les plus défavorisées de la ville de New York. Il a été poignardé, fusillé avec les membres de son équipe plusieurs fois. Une femme portoricaine qui pouvait à peine parler l'anglais lui dit un jour « Je veux faire quelque chose pour Dieu, s'il vous plaît, pasteur. » Bill déclare « D'accord, monte. » Entre autres dans les autobus scolaires, chaque dimanche, et aime juste les enfants. Elle a donc roulé dans les différents bus, et Bill en avait une dizaine remplie d'enfants aimés. Après plusieurs mois, elle s'est attachée à un petit garçon. Et elle va voir le pasteur Bill, elle lui dit « Je ne veux plus changer de bus, Je vais rester dans celui-ci, a-t-elle déclaré à Bill. Le garçon est venu à l'école du dimanche chaque semaine avec sa sœur et il était assis sur les genoux de la dame, mais ne faisait jamais de bruit. Et à chaque fois, lui répétait « Je t'aime et Jésus t'aime. I love you, Jesus love you. » Parce qu'elle était portoricaine et elle ne parlait pas très bien anglais. Elle ne savait pas faire grand-chose, mais elle voulait servir Dieu. Elle voulait faire quelque chose pour sa société, pour les enfants. Et elle disait juste « Jésus t'aime et je t'aime. » Un jour, à son étonnement, après plusieurs semaines, le petit garçon se retourna et balbutia « Je t'aime aussi. » Et elle était tellement touchée qu'elle lui fit un grand câlin. Il était 2h30 dimanche après-midi. À 6h30 ce jour-là, le petit garçon a été retrouvé mort dans une poubelle. Sa mère l'avait battu à mort et jeté son corps dans la poubelle. Je t'aime et Jésus t'aime. Ça devait être les derniers mots, parmi les derniers mots d'encouragement. Qu'as-tu entendu ? Une femme qui elle prêche pas. C'est pas la meilleure peut-être. Elle voulait juste servir et aimer les gens. Elle savait pas trop quoi faire. Elle a pas eu l'opportunité de faire un projet à l'école clé. Mais elle voulait servir. Elle va voir le pasteur, elle dit « Qu'est-ce que je peux faire ? Tu occupes-toi des enfants et aime-les. » Et elle s'attache à ce petit garçon. Je me dis ce jour, le petit garçon est parti, battu par sa maman, à mort, jeté comme un déchet dans une poubelle. Il a dû entendre l'après-midi ses paroles de réconfort toucher son âme. « Je t'aime et Jésus t'aime. » Le câlin de la femme, c'était un baume pour ce petit garçon, d'une femme portoricaine qui savait à peine parler anglais. Je me dis, mais si l'Église de Christ que nous sommes se réveille vraiment, nombreux ici comme nous sommes, capables de dire, mais Christ vit en toi, mais il vit en toi pas pour dormir, réveille-le dans la tempête. Il va calmer ta tempête. Il va te libérer de tes peurs qui fait de toi sa proie. Il va faire la différence dans ta vie. Pour ça, il faut que tu demeures. Tu crées un espace dans sa parole, dans le temps. Et tu laisses la parole pénétrer, aller de l'avant, produire cette liberté qui non seulement te donne la paix, mais cette liberté qui produit en toi la joie. Cette liberté qui produit en toi la foi. Alors peut-être que plusieurs ici, tu te sens peut-être pas à la hauteur. Mais Christ vit en toi. Et s'il vit en toi, alors tu es à la hauteur. J'aimerais dire à chacun d'entre nous ici, que tu viennes pour la première fois ou que tu es là depuis longtemps, tu n'es pas ici pour que Jésus t'abandonne. Tu n'es pas arrivé là pour qu'il arrête de te fortifier, de t'aider. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour que les choses n'avancent plus. Au contraire, c'est que le début. Ça va avancer plus. Fais-le confiance. Je voulais juste savoir si Rodrigue me permet. Au lieu de continuer, j'avais à cœur, on a le privilège, j'ai pas accueilli aussi tout à l'heure, d'avoir Cédric avec moi. C'est un collaborateur hors pair qui travaille avec Bruno moi-même à La Réunion, surtout dans la société. C'est le directeur de Famille Espoir. Et il a un témoignage qui va illustrer ce que je vous ai prêché, enseigné ce matin. Parce qu'il est libre de ses circonstances. Grâce à Jésus-Christ, parce qu'il a demeuré. Et si vous le permettez, si c'est possible, Rodrigue, il va faire le témoignage, vas-y.
Bonjour à tous. Ouais, merci de me permettre de partager mon témoignage pendant quelques minutes. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Ça faisait un moment, je disais à Steph, j'aimerais bien venir ici pour voir ce qui se passe à l'église, à l'école. Et l'opportunité s'est présentée. Donc je suis extrêmement heureux d'être là. J'ai vu l'école, j'ai vu les étudiants. Et quand je vous vois, je vois les destinées de Dieu qui sont là, prêtes à briller dans la société, à briller pour lui. Et en fait, moi, je fais partie de l'église Extravagance. Je suis marié à mon épouse qui s'appelle Brunella. Et j'ai deux enfants qui ont 7 ans et 4 ans. Et en 2010, de 2010 à 2013, en fait, j'étais pasteur à Extravagance. Je faisais partie de l'équipe pastorale avec Steve, Bruno et toute l'équipe. Et en 2009, donc juste avant de commencer à faire le ministère, que je pensais uniquement le ministère dans l'église, ma femme et moi, on a eu une petite fille qui s'appelle Louane. Et pendant un an, notre petite fille pleurait quasiment tout le temps. Tout le temps. C'était extrêmement difficile, mais on ne savait pas ce que c'était. C'était notre première petite fille et nous, on pensait que c'était normal. Parce que les gens disaient, un bébé, ça pleure. Sauf que la nôtre, elle pleurait jour et nuit. Et ma femme est entrée en dépression pendant un an. Elle sortait plus de sa chambre. Et on était... On était désemparés, on ne savait pas quoi faire. Et au bout d'un an, en faisant des examens, les médecins nous ont annoncé que notre petite fille avait été malade. Elle avait un souci, ils ne savaient pas d'où ça venait, ils ne savaient pas si c'était génétique, ils ne savaient pas si c'était dû à l'accouchement, parce que l'accouchement était difficile aussi. Et je me souviens, j'oublierai jamais ce moment-là où on a rencontré un médecin qui nous a dit « Vous ne projetez pas trop pour le futur ». Parce que vous savez pas comment ça va se passer. Et quand on nous a dit ça, nous, c'est le. Je faisais partie de l'équipe pastorale, je servais Dieu, j'enseignais. Et quand on nous a dit ça, c'est comme si le monde s'écroulait autour de nous. Et c'était notre premier enfant. Mais par la grâce de Dieu, grâce aux relations, je n'oublierai jamais Steve. Je me souviens, j'étais à l'hôpital et notre petite fille venait d'être perfusée dans le cou. Parce que elle avait convulsé et on ne savait pas, il fallait agir dans l'urgence et on était paniqués. Et j'appelle Steve appelle et ça m'a fait comme un électrochoc parce qu'il n'est pas parti dans mon sens. J'appelais Steve pour avoir du réconfort et il me dit tu es le chef de famille, tu as l'autorité de Christ en toi et c'est toi qui détermine l'atmosphère dans la chambre de l'hôpital. Je regardais le téléphone et je dis c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Mais en même temps ça m'a donné un coup d'électrochoc et le fait d'essayer d'appliquer ce qu'il m'a dit, ça a réellement changé l'atmosphère au sein de l'hôpital. Et de fil d'année en année, donc notre petite fille est malade, on ne sait toujours pas pourquoi, elle est sous traitement, elle fait des crises d'épilepsie, elle a un gros retard moteur, elle ne parle pas, elle ne marche pas, elle ne tient pas assise, elle est dépendante 24 sur 24. Mais Dieu a commencé une œuvre de restauration dans le cœur de mon épouse et moi. On comprenait pas tout, mais Dieu a commencé à guérir nos cœurs. Et on s'est dit, ok, notre petite fille est malade, mais ça ne doit pas nous empêcher de servir le Seigneur. Ça ne doit pas nous empêcher de briller pour Jésus. Et en 2013, mon épouse et moi, on décide d'avoir un deuxième enfant. Parce qu'on sent, la paix de Dieu, on sent qu'il y a une restauration. Et là, on commence à dire, bah, ok, là, on va avoir un autre enfant. C'était dû à l'accouchement. Donc on va avoir un petit garçon qui sera, enfin un petit garçon, une petite fille qui sera normale. Et donc par la grâce de Dieu, Joshua arrive en 2013 et au bout de 6 mois, on revoit les mêmes symptômes qu'on a vu chez notre petite fille. Crise d'épilepsie, l'ambulance vient le prendre, on repart à l'hôpital. Mais là c'est un peu moins difficile parce que Dieu avait déjà commencé un travail dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit Seigneur, on a deux enfants qui sont différents des autres. On a deux enfants qui sont porteurs de handicap. Quand Louane avait 6 ans, là, aujourd'hui elle en a 7, quand elle a eu 6 ans, le jour de son anniversaire, on a eu le coup de fil de l'hôpital pour nous dire on sait ce que vos enfants ont. Ils sont atteints d'une maladie génétique et il existe aujourd'hui que 50 cas dans le monde. Et nous sommes les seuls à La Réunion. Mon épouse est porteuse d'un gène et moi aussi. Donc on avait une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. On en a 2 à la maison. Et c'est exactement les mêmes symptômes. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est que Dieu est réellement bon avec nous. Aujourd'hui, je peux témoigner de la bonté de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu est réellement bon. Nos enfants aujourd'hui sont toujours malades. Ils sont toujours dépendants de nous. Il y a toujours des moments difficiles. Comme j'ai discuté avec Serge hier, il y a encore 15 jours, j'étais à Toulouse et ma petite était dans un état catastrophique. Elle pleurait jour et nuit. Mon épouse n'a pas dormi quasiment pendant 10 nuits. Nuit blanche sur nuit blanche. Et dans ces moments-là, je dis à Serge, je rentre dans la voiture et je me mets à pleurer comme un bébé. Tellement c'est difficile. Pleurer. Mais à ce moment-là, quand je dis « Seigneur, je veux m'appuyer sur toi », une espèce de force, comme a dit Steve, qui m'envahit. Et cette force-là me pousse à continuer à avancer, à ne pas baisser les bras. Et aujourd'hui, Dieu nous permet par ça, dans sa grâce, d'utiliser la situation avec notre famille. Et on sert le Seigneur à plein temps, en famille, dans la société. On a mis une association en place qui s'appelle Famille Espoir, que certains connaissent. Et on œuvre à l'hôpital à La Réunion. On aide les enfants qui viennent hospitalisés sans leurs parents pendant des mois, des fois des années, à La Réunion. Donc on a une grosse équipe de bénévoles qui vont les soutenir, qui vont les aimer. On leur donne des vêtements, on leur donne des sacs d'hygiène. On a mis en place la Courzio, donc qui existe à Toulouse, à La Réunion, bientôt en Suisse, j'espère à Montpellier. Dieu nous donne accès aux familles. Et aujourd'hui, je suis conscient. Je ne suis pas totalement arrivé. Bien sûr, on a encore des moments difficiles, on a encore des défauts, on a encore un travail à faire. Mais lorsque je dis aux gens que Christ est capable de vous redonner l'espoir, ça a un impact dans leur vie. Mais ça, je n'aurais pas pu le faire si Dieu n'avait pas utilisé la situation et si je n'avais pas accepté de recevoir et de m'abandonner premièrement entre les mains de Dieu, de recevoir son aide et de servir les autres. Mais Dieu est capable de ranimer n'importe quel espoir qui semblait perdu, n'importe quelle petite joie qui semblait ne plus exister. J'ai traversé ça. Et aujourd'hui, je suis capable de dire à n'importe quelle personne que le peu qu'on a, que le peu que vous avez, que la petite joie qui reste parce que la situation semble impossible, la petite espérance qui reste parce que la situation semble insurmontable, Dieu est capable de multiplier ça dans vos vies. Si vous vous abandonnez à lui, si vous demeurez dans sa parole, si vous acceptez son aide, si vous vous laissez conduire par lui, si vous acceptez l'appel qu'il a placé sur vos vies, prendre ça et le multiplier chez les gens. Prendre ça et équiper les gens. Aujourd'hui, on voit des vies transformées juste parce qu'on commence à côtoyer les familles, les enfants. Et ces enfants-là ont un potentiel en eux juste extraordinaire. J'ai des rêves en moi pour ces enfants. J'ai hâte qu'ils arrivent. Et je sais que Dieu va le faire. Et je sais que Dieu peut se servir aussi de ces enfants-là, des fois, ces enfants ou adultes qu'on considère incapables de faire certaines choses pour manifester sa gloire à lui. Donc, quelle que soit votre situation, juste appuyez ce que Steve a partagé. Prenez ce que vous avez. Soyez fortifiés dans le Seigneur et servez-le. Juste avec deux pains, cinq pains, deux poissons, servez-le. Aujourd'hui, je fais ce que je fais avec mon épouse et avec l'équipe par grâce. C'est impossible pour nous aujourd'hui de faire ce qu'on fait sans le Seigneur. C'est impossible. Et celui qui fait les choses. Donc voilà. Donc, je juste vous encourager à travers un court témoignage. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse richement.